franceinter.fr.
Trois mois de prévision météo estivale dévoilée par Météo France à la une aujourd'hui et l'été pourrait être chaud, juin, juillet et août. Météo France annonce donc les tendances sur le temps qu'il va faire en Europe et en France. Des prévisions à moyen terme qui n'intéressent pas que les vacanciers et qui reposent également sur la puissance de calcul de super ordinateurs. Christian Vielle, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes climatologue à Météo France. Alors la probabilité d'un scénario plus chaud que la moyenne cet été est, paraît-il, de 50%, c'est ce que vous dites à Météo France. Qu'est-ce que ça signifie exactement?
Alors c'est vrai que le chiffre de 50% peut paraître un petit peu modeste. En fait, il ne faut pas chercher à l'interpréter comme une chance sur deux d'avoir un été chaud ou un été froid. En prévision saisonnière, on définit habituellement trois catégories. En fait, une catégorie plus froid que la normale, normale ou plus chaud que la normale. Et si on classe les étés des 30 dernières années dans ces catégories, on a un tiers des années qui sont dans le froid, un tiers dans le chaud et un tiers dans le normal. Donc chaque catégorie représente en fait 33% des situations. Donc si aucune tendance ne se dégageait, on indiquerait pas de scénario, c'est-à-dire 33% de probabilité d'avoir un de ces trois scénarios. Et dans le cas de l'été 2017, on annonce 50% pour un scénario chaud, c'est-à-dire qu'on a une fois et demie plus de chances d'avoir un scénario chaud que la normale.
C'est la tendance.
Et si on regarde aussi les probabilités des autres scénarios, puisqu'en fait c'est quand même une prévision probabiliste à la base, on indique environ 20% de chances d'avoir un été plus froid que la normale.
Quelles données vous prenez en compte pour prévoir la météo 3 mois à l'avance?
Alors les données nous sont essentiellement fournies par des modèles de prévision, donc des modèles de prévision saisonnière qui sont des modèles assez semblables à ceux utilisés pour les projections climatiques, assez semblables aussi à ceux qui sont utilisés même pour les prévisions à courte échéance, à quelques jours. Donc des modèles qui simulent les conditions atmosphériques, mais aussi les conditions de l'ensemble du système climatique et notamment des océans.
Quelles sont les régions du globe où les prévisions sont les plus justes?
Les régions les plus favorisées, si je puis dire, en termes de prévisions, sont les régions tropicales, où les interactions avec les océans sont les plus fortes, en fait. C'est là où on bénéficie le plus, finalement, des conditions océaniques et qui donne finalement des horizons de prévision plus importants.
Alors que montre l'expérience justement par rapport à ces prévisions à 3 mois, parce que ça fait quand même quelques années maintenant que vous êtes capable de les donner. Vous avez souvent raison, finalement les ordinateurs se trompent un peu, quand même beaucoup même.
Alors comme je l'ai dit, ça dépend énormément finalement des régions géographiques qu'on considère. Dans les régions tropicales, si on s'intéresse par exemple à la prévision du phénomène El Niño, on peut trouver des qualités de prévision remarquables. Hein. On a des scores de prévision qui sont tout à fait bons à plusieurs mois d'échéance, même plus que 3 mois. Donc là, on est plus proche des conditions océaniques. Quand on connaît bien les conditions initiales, on est capable d'extrapoler de manière très fiable.
Grâce à cette stabilité des températures, justement, dont vous parliez des océans.
Voilà, c'est ça. On est très lié aux conditions océaniques. Et ces conditions océaniques pilotent assez directement les conditions atmosphériques par des échanges d'énergie qui s'opèrent tout au long des saisons, oui.
Mais pour l'Europe, donc, c'est plus compliqué.
Alors, pour les moyennes latitudes en général, c'est plus compliqué. La proximité du Pacifique pour l'Amérique du Nord, par exemple, permet d'augmenter la qualité de la prévision, puisque là, on se situe aux abords d'un océan extrêmement vaste. En revanche, quand on s'approche de l'Europe, c'est vrai qu'on est dans une région du monde qui est pas très favorisée en termes de prévision saisonnière, et où les calculs de score, de fiabilité, montrent que on arrive à faire un petit peu mieux que la connaissance climatologique, mais que les performances restent quand même limitées.
Oui. Christian Vielle, d'où viennent les informations justement que vous donnez à manger à vos super calculateurs? Ce sont quoi, des informations issues des satellites, de balises dans l'océan? Comment ça fonctionne? Vous avez un maillage partout sur le globe?
Alors voilà, on a des informations qui nous proviennent effectivement d'observations locales. Les satellites jouent un très grand rôle puisqu'ils nous apportent des informations vraiment globales. sur des régions qui sont complètement inaccessibles à l'observation, et aussi sur toute l'épaisseur de l'atmosphère. C'est ça qui est assez remarquable aussi, où on arrive à extrapoler finalement des profils de température, d'humidité, des vents à toutes altitudes. Donc là, c'est une source d'informations extrêmement riche et nécessaire pour ce genre de simulation.
Et pour synthétiser toutes ces données, on voit bien qu'elles sont multiples, le rôle des supercalculateurs est particulièrement important, notamment pour des prévisions à 3 mois.
Alors c'est essentiel pour les prévisions à 3 mois, c'est essentiel pour les prévisions à courte échéance et pour les prévisions, enfin les projections climatiques. En fait, les ressources de calcul d'un supercalculateur comme celui de Météo France sont dédiées à plus de la moitié à la prévision. Et sans les supercalculateurs, on serait bien incapable de faire des prévisions comme celles qu'on fait actuellement.
Pourquoi on dit supercalculateur ? C'est quoi leur capacité ?
Donc ça, c'est des machines qui sont capables de réaliser des milliards, des millions de milliards d'opérations par seconde, c'est-à-dire c'est des puissances de calcul qui n'ont rien à voir avec les ordinateurs classiques qu'on peut rencontrer dans la vie courante. Et c'est surtout des capacités de calcul qui sont en constante augmentation et qui permettent par leur justement l'augmentation de ces capacités d'améliorer la modélisation, à la fois les processus physiques, les interactions entre les différents éléments du système climatique, par exemple pour ce qui concerne la prévision saisonnière. Donc on a vraiment, on peut bénéficier des améliorations des supercalculateurs qui sont des outils vraiment très utiles. Oui.
Voilà, puissance multipliée par 500 000 depuis 1992. Christian Viel, pour terminer, quel temps va-t-il faire alors en France métropolitaine cet été quand même ? Donnez-nous la grande tendance.
Donc la tendance qui dégage, le scénario le plus probable, donc c'est un scénario chaud, c'est-à-dire plus chaud que la normale. Donc c'est un signal qu'on retrouve dans la plupart des modèles de prévision saisonnière qu'on utilise pour élaborer ces prévisions. Et c'est un signal qui provient certainement en bonne partie du signal du réchauffement climatique. Donc ça, c'est des choses qu'on observe et qui sont vraiment flagrantes quand on regarde une carte de prévision à l'échelle globale où les zones chaudes dominent.
Et on parlera de canicule ou pas cette année ?
Alors ça, c'est beaucoup plus difficile en fait. Les tendances qui sont données dans ce genre de prévisions sont des tendances moyennes à l'échelle de plusieurs mois. La prévision d'épisodes au sein de ces saisons reste quand même très hasardeuse. Et donc on n'indique pas de tendance sur ce type de phénomène.
Bon, en tout cas, l'été commence aujourd'hui pour Météo France, visiblement, Christian Viel, avec donc l'annonce de ses prévisions à 3 mois. Merci beaucoup pour justement ces infos. Et puis Agnès, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, la découverte d'un vestige moléculaire précurseur du vivant. L'étude des traces de la vie sur Terre ont pu remonter jusqu'au plus vieil ancêtre commun. Et c'est une bactérie baptisée Lucas. Mais comment Lucas s'est-elle formée ? Comment est-elle passée du minéral au vivant ? Pour le comprendre, il faut réfléchir à l'échelle moléculaire en chimie prébiotique, et c'est ce qu'ont pu faire des chercheurs de 3 laboratoires réunis de l'université Pierre et Marie Curie. Ils sont parvenus à former ces molécules, des biopolymères qui sont les premières à avoir émergé dans la Terre primitive et qui sont donc le trait d'union entre la matière inerte et la matière vivante. Leurs travaux sont publiés dans la revue Angewandte Chemik. Comment contrer les super bactéries de plus en plus résistantes aux antibiotiques ? Eh bien en créant justement un super antibiotique. C'est ce que vient de faire une équipe de chercheurs californiens. Ils sont partis d'un antibiotique qui a perdu de son efficacité, la vancomycine, dont ils ont boosté les capacités. Et le voilà donc 1000 fois plus puissant, mais surtout capable de réagir à une contre-attaque des bactéries. Ce super antibiotique doit maintenant être testé sur des animaux et des humains. Ces travaux sont publiés dans la revue PNAS. Et puis enfin, pourquoi les flamants roses se reposent sur une seule patte? Cette posture qui nous semble si peu agréable est celle qui en réalité leur demande le moins d'énergie musculaire. Des chercheurs d'Atlanta ont étudié ces animaux qui sont plus stables sur une patte plutôt que sur deux, et la réponse tiendrait à leur structure osseuse et à leur poids. Sur une patte, leur centre de gravité est mieux placé.